Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Super Pouvoir sur Nutri Radio mais aussi sur Nutri TV. Et oui, là on est dans une série d'émissions très spéciales avec évidemment Patrick Martini. Bonjour Patrick.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Et puis toujours notre invité pour cette série d'émissions, le professeur, médecin, ancien directeur, ancien président de la commission des maladies infectieuses, Christian Perron. Bonjour. Bonjour Christian.
Ben, je suis heureux d'être ici avec vous.
Ben oui, on n'a toujours pas fermé la chaîne, on est bien, on est content. Alors non, on parle de sujets qui, je l'espère, vous intéressent évidemment, pour une prospection, savoir comment on peut faire évoluer un peu ce système de santé, plus axé, on l'a vu, sur la maladie, et c'est très bien, parce qu'il faut soigner, ouais, les pompiers, c'est génial, donc il faut soigner, on est malade, il faut soigner, mais ne pourrait-on pas anticiper, parce que là, il y a une vague qui s'abat sur nous, tel un tsunami, ce sont les maladies chroniques, et donc le système de soins, il est un peu débordé, n'est-ce pas Patrick?
Oui, c'est ça, il y a une épidémie aujourd'hui, une maladie qu'on aurait pu éviter. Hein, des maladies évitables comme le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires graves, certains cancers évidemment. Là on arrive un petit peu aujourd'hui à la limite du système curatif, c'est-à-dire qu'on attend que les gens soient malades pour les soigner. Il y a un frein structurel comme on l'a montré la semaine dernière. Mais là on arrive à la limite du système curatif qui est complètement débordé, parce que justement on n'a pas mis en place le système préventif qui est supposé limiter en fait les entrées dans les hôpitaux de malades. Donc on va voir un petit peu plus loin aujourd'hui un petit peu quel est le frein au financement en fait. Comment est-ce qu'on pourrait financer une médecine aujourd'hui de la santé et non pas une médecine de la maladie. Donc ça c'est une première question qu'on va débattre avec Christian Perron sur comment pourrait-on en fait payer quelqu'un qui va vous empêcher d'être malade.
Moi, je pense que ça pourrait être assez simple et pas coûter si cher. Maintenant qu'on a des évidences scientifiques, que par exemple le sucre est très mauvais pour la santé, pour le cancer, plein de maladies inflammatoires, le diabète, les maladies métaboliques, etc. Déjà, un programme d'éducation à l'école pour, dès l'enfance, apprendre aux enfants qu'il ne faut pas boire des litres de soda toute la journée, pas manger d'excès de sucre. On peut manger une pâtisserie de temps en temps, il faut faire un petit plaisir, mais... beaucoup de Français sont dans l'abus total de consommation de sucre.
Qu'est-ce que vous appelez l'abus total de consommation de sucre?
C'est de boire des litres de soda tous les jours. Et maintenant, ça devient courant. En France, c'était rare jusqu'à une période récente. Mais moi, je suis né en 55. Je me souviens en 1960. Je devais avoir 5 ans. J'étais dans une école privée chez des prêtres à Paris. Et d'un seul coup, un jour, on a vu arriver un camion de Coca-Cola au milieu de la cour. Et on nous a distribué des bouteilles. Et à l'époque, on n'avait jamais bu ce truc. On n'avait pas trouvé ça très bon d'abord. Mais il y a quand même toute cette industrie du sucre qui a poussé. C'était un peu anecdotique dans les années, fin des années 50 et début des années 60, mais maintenant c'est devenu dans la publicité partout, le sponsoring des sports. Manger du sucre, c'est bon pour l'énergie, et les jeunes se font totalement prendre dans ce truc. Et déjà un peu d'éducation sur comment changer son alimentation, etc. Ça coûterait rien sur le papier. Et ça aurait un impact à long terme qui serait colossal pour éviter plein de maladies chroniques. L'épidémie d'obésité, elle n'est pas tombée du ciel, elle est due au sucre.
Alors, essentiellement. L'obésité morbide aux États-Unis peut être supérieure à 44% par État. Ça veut dire qu'il y a 44% des personnes dans un État, comme le Texas d'ailleurs, où les gens sont en obésité morbide.
Est-ce que ce n'est pas la fréquence de consommation du sucre, on va dire toutes les heures quasiment de la journée pour certains, plutôt que le sucre en lui-même, qui intervenait avant, juste peut-être au petit déjeuner et au repas en dessert.
Alors comme quand on en boit toute la journée.
C'est ça, c'est peut-être la consommation régulière.
C'est des litres entiers. Moi j'ai vu des statistiques aussi bien au Mexique, même aux États-Unis, même dans des pays pauvres où les gens n'ont pas trop de quoi manger. Ils achètent des bouteilles de cola, parce que c'est pas cher. Maintenant, il y a des copies en plus génériques dans plein de pays. Pour 3 francs 6 sous, ils peuvent acheter des litres. Et puis ça les nourrit, ils se sentent mieux et plus énergiques parce qu'ils ont du sucre et tout ça. Mais à long terme, ça détruit totalement leur santé.
Alors comment,
Quand on voit maintenant ces jeunes, moi je vais régulièrement aux États-Unis, même déjà dans l'avion, quand je vois mes voisins qui prennent presque 2 sièges sur l'avion parce qu'ils sont complètement obèses. En France, on voit des obèses, mais ça augmente, hein, on en voit plus maintenant. Mais on ne voit pas cette proportion qu'on voit partout aux États-Unis, oui. C'est alors, monstrueux.
Comme on a de très bons avocats, mais j'imagine que les avocats de Coca sont meilleurs, ou plus nombreux, on ne va pas se fâcher avec eux. Donc le Coca, c'est certainement très bon, mais en petite quantité.
Mais j'ai jamais cité Coca. Hein,
si, vous l'avez dit
Non, mais c'était un fait historique que Coca-Cola était venu dans la cour de mon école.
Je me suis mis dedans tout seul. mais c'est simplement pour dire alors, que c'était la juste, dose de poison aussi.
Juste, c'est vrai qu'on parlait d'éducation. On parle d'éducation à l'école, de savoir... qu'il faut faire du sport, que c'est important de bien manger, que c'est important de limiter certaines consommations, notamment le sucre. Mais après, au niveau des actes de soins, effectivement, est-ce qu'il pourrait y avoir une rémunération sur objectif sur des actes de soins préventifs?
Alors, ça existe, parce qu'il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un acronyme, mais les médecins généralistes, par exemple, ils font beaucoup de vaccinations, qui prescrivent des tests de prévention, ont des primes à la fin du mois, qui peuvent, s'ils en font beaucoup, ça peut être assez conséquent.
Donc ça existe déjà?
Ça existe, mais le problème, c'est vraiment très dirigé vers ce qui rapporte à l'industrie, c'est ça qui est un peu désolant. On ne va pas payer un médecin pour dire, voilà, il faut revoir votre alimentation. Bon, voilà, c'est le constat actuel. Donc il existe déjà quelque chose, mais qui est très limité à des choses qui finalement n'ont pas une portée énorme sur la santé publique.
On va dire que la structure est là, il peut y avoir des rémunérations sur objectif, mais en fait, c'est vrai qu'il faut trouver effectivement l'astuce en fait, pour que les médecins puissent prévenir, puissent faire des prescriptions de prévention. Alors, est-ce que ça peut venir de médecins ou de thérapeutes spécialisés? Est-ce que, à partir du moment où, par exemple, quelqu'un a une première alerte, un premier stent posé, on l'envoie un petit peu comme à l'hôpital aujourd'hui, hein, il y a des nutritionnistes qui travaillent à l'hôpital, est-ce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être développées dans ce sens pour faire de la prévention?
Bien sûr, et je pense que ce sera indispensable. Malheureusement, ce n'est pas beaucoup fait. Et comme vous disiez, là, aux États-Unis, ils sont aperçus qu'il n'y avait que 7% des gens qui changeaient leurs habitudes de vie après un infarctus ou après... c'est un peu désolant. Et ces formations ne coûtent pas très cher. Quand on regarde, ça coûte moins cher qu'une ampoule de certains médicaments.
Chirurgie.
Ou de chirurgie, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces maladies chroniques génèrent beaucoup de chirurgie. Si on est obèse, on a du diabète, on a les articulations qui sont foutues, il faut mettre des prothèses, les prothèses s'infectent, les gens sont hospitalisés. Moi, je le sais, à Garches, on était un centre de référence pour traiter les infections osteoarticulaires graves, c'est-à-dire tous ces gens qui avaient des tas de prothèses infectées. Et ça peut être des mois d'antibiotiques, tout ça, ça coûte une blinde à la sécurité sociale.
Alors que ça aurait pu être évité.
Mais il aurait fallu le faire peut-être 20 ans, 30 ans en amont, quand ils étaient jeunes et qu'ils étaient insouciants, en disant, bon, voilà. Et maintenant, on voit la situation actuelle. Il suffirait d'un claquement de doigts d'un président de la République, d'un ministre de la Santé, d'un ministre de l'Instruction publique, je préfère ça à l'Éducation nationale. On pourrait changer le tir assez vite. Hein.
Donc ça dépend d'une volonté politique, essentiellement?
Bien sûr, oui. Il suffit d'engager une ligne budgétaire sur des choses qui peuvent porter leurs fruits.
Donc la prévention santé, ce serait donc notamment augmenter les heures de sport à l'école, par exemple, mais y compris au travail, peut-être imposer certains...
Oui, mais c'est aussi présenter pourquoi c'est important de faire ça. Pourquoi c'est important de faire du sport? Pourquoi c'est important de bien manger?
Après,
pourquoi
faut faire c'est important
de sacraliser un petit peu ce qu'on met au bout de la fourchette?
Il faut faire attention quand on parle de sport, parce que les gens ont tendance à faire du sport très violent. Je vois des gens de plus de 60 ans qui font du jogging, et on a l'impression qu'ils vont mourir quand on les croise sur le trottoir. Ça, c'est excessif, parce que les sports excessifs... ne sont pas très bons pour l'espérance de vie. On a vu que les très grands sportifs qui se sont donnés pour gagner les Jeux Olympiques, souvent ils meurent assez jeunes, parce qu'ils ont, en plus peut-être qu'il y a eu des problèmes de dopage pour certains, ils ont bousillé leur corps. Même c'est très mauvais de faire du jogging à long terme, parce que ça bousille les articulations, les genoux, les hanches. Après tout ça, c'est de la chirurgie orthopédique. Le sport, pour moi, ça doit être quelque chose de doux, d'agréable. Ça doit être de la marche, de la marche rapide, de la natation, un peu de gymnastique douce.
Vous faites du sport, vous, d'ailleurs ?
Oui, je fais surtout du vélo et puis de la marche, un peu de natation, mais je fais pas de... J'ai horreur du sport intensif comme ça en salle, ça m'attire pas, mais je comprends très bien. Mais si c'est fait de façon raisonnable, c'est parfait. Mais attention quand on parle de sport, parce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. D'un seul coup, leur médecin dit qu'il faut faire du sport. Ils tombent dans un excès de sport violent qui finalement bousille aussi leur organisme. Donc voilà, il faut faire les choses gentiment. Je préférerais plutôt que parler de sport, d'activité physique régulière. Je pense que c'est ça qui est important.
Il y a un sujet qu'on n'a pas mentionné depuis les débuts de ces émissions et qui pourtant pourrait peut-être soit être un danger ou plutôt très bénéfique pour la prévention santé, pour cet établissement aussi de lien entre des visions différentes, justement, et des approches différentes, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Christian ? Est-ce que vous l'utilisez et comment on pourrait
l'utiliser ? Moi, je l'utilise jamais parce que j'en ai pas le besoin. Quand j'en éprouve pas le besoin, peut-être qu'un jour... Je sais que j'ai des amis qui l'utilisent, c'est génial. Maintenant, j'ai plus besoin de réfléchir. Il y a un texte très bien qui sort tout seul. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un peu une manipulation de l'esprit pour nous induire à avoir un comportement un petit peu uniforme. Je ne veux pas être paranoïaque. Peut-être que je l'utiliserai occasionnellement, ponctuellement, pour un point précis. C'est vrai que si j'arrive à trouver toute une information très vite, en deux clics, je serais content. Mais là, on est en train de... Maintenant, les jeunes n'apprennent plus leurs cours, ils rédigent leur rédaction, tous leurs devoirs avec l'intelligence artificielle.
Qui fait ça en 5 secondes.
Et voilà, ça sort en 5 secondes. Donc ils ont dit, mais pourquoi est-ce que c'est la tête à travailler, puisqu'il y a une intelligence qui le fait pour moi. On est tombé dans un mécanisme d'abrutissage des populations, finalement.
De zombisation, quelque part, c'est de robotisation.
Oui. C'est pour ça que j'ai très peur de cette technique. Je ne suis pas contre à 100%, parce que c'est vrai qu'on peut trouver quelquefois des informations.
C'est marrant, parce qu'on parlait des maladies chroniques. Bon, par exemple, le Alzheimer, enfin, c'est pas une maladie chronique, mais Alzheimer, ça explose aussi. Les cas d'Alzheimer, le déclin cognitif est rapide, et d'ailleurs de plus en plus jeune. Et l'utilisation de l'IA, par exemple, qui va... Si c'est en excès, comme d'habitude, c'est toujours une question de dosage, mais en excès, fait qu'on utilise, on sollicite moins notre cerveau avec un déclin cognitif plus précipité. Et donc, encore une fois, des maladies neurodégénératives. Est-ce que ce n'est pas les prochaines grandes épidémies de demain, ça ? Et là, on est dans une phase vraiment où on peut agir maintenant.
Et l'Alzheimer, sur le verre, parce que je pense que toutes ces maladies chroniques, il n'y a pas qu'un côté infectieux, mais une participation infectieuse dans la plupart. Moi, je l'avais écrit dans mon livre « La vérité sur la maladie de Lyme » que j'avais publié il y a plusieurs années. Il y a des études scientifiques publiées avec des coupes de cerveau, tout ça, qui montrent que dans l'Alzheimer, il y a des bactéries dans le cerveau. Il y a des borrelia proches de la maladie de Lyme. Il y a des treponèmes non syphilitiques, mais proches de la syphilis, mais qui ne sont pas à transmission sexuelle, qui sont plutôt des bactéries de la bouche. Il y a des porphyromonas, les bactéries de la gingivite. D'ailleurs, il y a une étude épidémiologique qui avait montré qu'il y avait un lien entre Alzheimer et dents pourries. Donc, on sait que l'Alzheimer, il y a peut-être d'autres facteurs métaboliques, perturbateurs endocriniens, plein de trucs. Mais en partie, c'est dû à des bactéries qui colonisent le cerveau. Ça donne exactement le même tableau clinique que donnait la syphilis chronique autrefois, que donne le Lyme chronique. Ça, c'est publié. Il y a même des études qui disent que ça répond aux critères de Corse, aux responsabilités d'une bactérie. Et quand j'ai fait des conférences là-dessus avec les références scientifiques à des neurologues, à des infectiologues, je me suis fait traiter de fou et de charlatan c'est pas du tout accepté qu'on puisse... Alors je dis pas que... Malheureusement, quand on traite quelqu'un qui a l'Alzheimer, qui a déjà des symptômes, qui oublie tout, il a déjà perdu le quart de la masse cérébrale. Donc on peut pas récupérer avec des antibiotiques ou des traitements naturels à ce stade-là. Et si on faisait de la prévention, même avec des méthodes naturelles, peut-être de la phytothérapie, d'autres méthodes, pour prévenir cette dégradation du cerveau, pourquoi l'Alzheimer devient complètement... Maintenant, moi, quand je faisais mes études, c'était à Beaujon, j'étais chez le professeur Cambier comme étudiant en médecine, en neurologie, on nous présentait l'Alzheimer comme une maladie très rare.
Très rare.
Et très rare à l'époque, j'étais étudiant.
Dit,
et d'un seul coup, quasiment on va tous faire de l'Alzheimer en vieillissant.
Mais c'était un peu comme... l'électrocardiogramme a été inventé au début des années 1900 et était présenté aux universités américaines. Et les gens ont rigolé. Ils disaient, mais enfin, manie cardiovasculaire, monsieur, mais il n'y en a pas. Hein? alors que, mais c'était il y a 150 ans.
Vous, Patrick, vous avez peur de ça, de, pour revenir sur l'IA, est-ce que l'IA, aujourd'hui, on n'est pas à un stade où on va, il y aura une épidémie de maladies neurodégénératives avec une précipitation du déclin cognitif, parce que là, on va dans, bah, je, ça ne sert à rien que j'apprenne, l'IA va le faire pour moi, tu vas faire un mail, je vais le mail pour toi,
moi, je pense que
pour les jeunes générations surtout.
Enfin, moi, j'utilise l'IA comme j'ai utilisé l'encyclopédie Universalis, c'est-à-dire comme une source d'informations. J'écris tout ce que je fais à ma manière, mais c'est vrai qu'il y a un abêtissement qui peut être induit par une utilisation forcenée de l'IA. Et on voit que, en fait, alors après, c'est un indice qui vaut ce qui vaut, mais l'intelligence des gens diminue de 8 points, je crois, en quelques années. Donc c'est vrai qu'on peut se dire à quoi est dû cet abêtissement.
Il faut faire attention, parce que je vois des témoignages, je ne citerai pas d'exemple pour ne pas avoir d'ennui, mais...
Quels exemples ?
Non, mais je citerai
libre,
pas.
Soyez libre.
Non. Mais des gens posent des questions un petit peu embarrassantes, un peu chaudes politiquement, hein, tout ça, et l'IA répond systématiquement, une réponse politiquement correcte, mais non, on n'a pas le droit de dire ça, c'est complotiste. Donc déjà, il y a une espèce de...
Déjà, il y a un choix.
On formate, soi-disant, cet outil très indépendant, super intelligent, mais on l'a formaté pour nous pousser vers une pensée unique. Mmh. C'est ça qui me gêne dans l'IA.
C'est ça.
Mais moi, si j'ai besoin d'avoir un renseignement sur telle maladie que l'IA me donne la liste des symptômes et des traitements, je suis très content. Mais je dis, si je l'utilise ponctuellement, c'est un outil qui peut être merveilleux comme ça, mais que tout le monde fasse une confiance excessive, se fasse abrutir par l'IA, surtout nos jeunes, moi, ça m'inquiète.
Moi, c'est inquiétant.
Parce qu'ils vont plus apprendre à réfléchir par eux-mêmes. Au lieu de lire exactement. Baudelaire, ils vont regarder l'IA toute la journée, ils ne vont pas développer un esprit critique.
Voilà, parce que c'est pour ça que je parlais d'encyclopédie Universalis. C'est une source de connaissances, mais à partir du moment où l'IA dirige un choix, ça veut dire qu'il y a une intelligence humaine directrice derrière. Ben, et oui. Ça, c'est ça qui ne me plaît pas. Si c'est une, comme dit le professeur Perron, si c'est une source de connaissances où on a une liste exhaustive des symptômes, des ci, des ça qu'on demande, ça c'est parfait. Mais si elle oriente un choix, ça veut dire qu'il y a une intelligence humaine derrière qui nous force vers quelque chose. Et ça, c'est négatif.
Ok, c'est aussi ce que j'étais en train de faire.
Non, vas-y.
Je suis en train de regarder votre réputation sur l'IA. Parce que dit de vous...
Oh là, ça doit être terrible, là.
Alors, bon, allez. pas du tout, non, parce que déjà, sur vous, franchement, il dit qu'il y a des sujets... C'est marrant comme quoi il y a des époques dans une vie qui marquent un homme, et vous, il y a un avant, il y a un après-Covid.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que là...
Je suis tombé en enfer.
Là, il y a un truc... Autant ce que vous disiez avant, c'était super, autant depuis, c'est catastrophique. Non, mais enfin, voilà, c'est quand même... Mais ceci étant, il vous met quand même une belle note de crédibilité dans ce que vous dites. Et il me dit juste, mais attention, si tu t'exprimes sur des sujets... le vaccin met des nuances. Oui, bah, merci.
je me suis abstenu aujourd'hui.
Oui, c'est bien. Fait,
non, mais c'était pas le sujet. Voilà, j'ai écouté mon IA qui m'a dit « fais gaffe ».
Et vous, Patrick, alors... vous apparaissez comme une personne crédible. Et ça, c'est pas mal. Parle de votre passé d'astrophysicien.
Il est resté crédible contrairement à moi, donc bravo.
Non, c'est intéressant. Enfin, bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une référence pour tout. C'est quand même incroyable.
Donc, il faut m'écouter.
Voilà, j'ai pas tapé mon nom, évidemment. J'ai pas tapé mon nom. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Crédibilité scientifique. Enfin, moi, je suis pas scientifique. Je vous écoute vous, qui êtes au contact des patients qui avaient été, qui êtes, ou des clients qui viennent rechercher des solutions complémentaires à celles que le médecin a prescrites. Donc on est dans du bien-être et dans du soin de toute manière, le soin du corps, de l'âme, de l'esprit. On se dirige vers cette dernière partie de l'émission. Oui. Avant de revenir sur l'initiative européenne,
oui.
Vous vouliez dire quelque chose?
Ben oui, c'est juste que je pense que sur... Il y a vraiment les pistes, hein, elles sont assez claires. Hein, c'est de l'éducation à tous les niveaux, au niveau des écoles, mais au niveau aussi de la formation des médecins. Au niveau peut-être d'avoir un échelon où quand il y a quelqu'un qui a un premier symptôme de maladie, on doit le référer à un spécialiste préventif. Et là, cet acte doit être financé et doit être payée.
Et d'ailleurs, quand j'étais au Conseil de la Santé publique, on avait demandé la rémunération de consultations de prévention pour les généralistes qui pouvaient recevoir quelqu'un qui n'était pas malade, mais le recevoir pendant une demi-heure, voir avec lui, je ne sais pas, ses vaccinations, tout ce qu'il avait fait, les tests.
Oui, donc ces actes sont payés.
Finalement, il y a peut-être quelques expériences, mais c'est jamais vraiment passé dans la pratique, ça n'a jamais été encouragé par les autorités. Et ça, c'est dommage, parce que les médecins généralistes sont tout le temps pris dans l'urgence de traiter l'urgence, et ils n'ont pas le temps de s'occuper de la prévention. Parce que la prévention, c'est du blabla, il faut convaincre des gens de changer l'alimentation. Moi, j'ai essayé de le faire avec des jeunes et des vieux, je peux vous dire que c'est très compliqué. Le gars qui a l'habitude de manger 3 kilos de pâtes tous les jours et 100 kilos de viande par jour, et de lui dire non, il faut peut-être changer un peu, on ne demande pas de supprimer la viande, mais de faire un effort ou de diversifier, manger des fruits, des légumes... C'est niette. Ah ben non, j'en ai jamais mangé.
Alors c'est là que le système américain, il peut donner des solutions, même si elles sont un petit peu délicates. C'est-à-dire que, à partir d'un premier symptôme, on dit bon ben faites les cours. Si vous les faites pas, vous serez moins remboursé. C'est quand même.
C'est intéressant, oui. Non mais c'est vrai.
Oui, c'est intéressant, mais ça met le patient ou le client en face d'un choix drastique.
Il y a le permis de santé, il y a le carnet de santé, on peut faire le permis de santé. On va avoir des initiatives.
Après, on peut effectivement, ça c'est une discussion qu'on a eue notamment sur, par exemple, des fumeurs ou des gens qui mangent ou qui boivent. On dit oui, mais bon, on peut les laisser fumer, on peut les laisser boire, parce que de toute façon, après, on les soignera. Mais non, mais pourquoi pas les empêcher dès le début et leur dire, si vous continuez à boire ou à fumer, c'est à vos frais.
Oui, mais après, c'est quand même...
C'est un peu compliqué, c'est vrai que c'est difficile.
C'est très hypocrite aussi, parce que vous dites, mais dans la société, parce que tout est fait, tout est incitatif. Il y a des films, j'avais jamais fait attention, il y a certaines séries américaines, parce que vous parlez que par les États-Unis, mais il y a certaines séries où les héros, ils sont avec la clope au bec, il y a beaucoup de choses où on se dit, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de manger ça, il y a des campagnes pour la malbouffe à tort et à travers, donc c'est quand même, la tentation, elle est à tous les coins de rue, là. C'est très difficile de se dire, haricots, pois chiches. Parlons de cette initiative européenne pour restaurer la santé du citoyen européen. Vous en êtes à l'initiative ?
Alors, c'est pas moi, c'est pour la France, c'est Louis Fouché et Vincent Pavant. Donc, Louis Fouché qui est un médecin, Vincent Pavant, mathématicien à Marseille. Moi, je me suis associé très vite à eux. Et en fait, c'était de s'inspirer, pas de copier, parce que la France, l'Europe, c'est pas... Et puis c'est surtout l'initiative d'une médecin autrichienne que je connais bien, et d'un député européen autrichien. Donc c'est surtout en Europe les Autrichiens qui ont lancé ça, parce que c'est pas que français, c'est toute l'Europe, qui ont essayé de se rapprocher de ce que fait Kennedy aux États-Unis, justement pour améliorer la santé, l'alimentation, la prévention, valider de façon scientifique les médicaments, les vaccins, etc. Ça fait une vraie révolution dans le bon sens.
Dans le sens de la transparence, oui.
Dans le sens de la transparence, de lutter contre la corruption dans les agences de régulation, ce qui est un gros boulot, ce qu'ils ont fait aux États-Unis récemment. Mmh. C'est pas de copier ce qui se fait aux États-Unis, c'est d'essayer de fédérer des associations qui essayent de lutter un peu pour améliorer la santé des gens. D'ailleurs, depuis qu'il y a eu une réunion au Parlement de Bruxelles, là, où j'étais là récemment,
le 15 octobre.
Il y avait des Américains, des gens d'un peu tous les pays européens. Et depuis, j'ai été contacté par différentes associations. On aimerait bien se joindre à vous, c'est super cette initiative. Donc voilà, je sais pas trop où ça va aller, c'est le démarrage. Mais c'est de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens en Europe qui disent qu'on ne peut plus continuer comme ça, il faut essayer de restaurer une vraie médecine basée sur les preuves, basée sur la science, arrêter avec ces lobbies qui pourrit tout. Moi, j'ai trouvé cette initiative très belle. On va voir, on est juste dans le démarrage.
Est-ce que c'est pas un lobby contre un contre-lobby ? Parce que j'ai l'impression qu'on est entouré de lobbies et que, en fait, à partir du moment où on va se réunir à plusieurs pour faire porter... Parce que le lobby, c'est pas forcément négatif, hein. Je suis désolé, il y a des lobbies qui portent des choses très positives à la connaissance des personnes et qui vont aller plaider pour une connaissance de certaines choses qui sont très utiles, d'ailleurs. Le lobby, on a l'impression que c'est un roman, il faut des lobbies.
Mais en fait, les lobbies, tant qu'ils sont déclarés et tant qu'il y a une transparence...
Voilà, mais d'ailleurs, en Europe, je crois qu'il y a une politique active sur le lobbying en Europe, il me semble.
Autour du Parlement européen, il y a des milliers d'agences de lobbying.
Mais oui, mais alors
C'est pas un problème.
Bah si, parce que tous les votes sont faits sous pression, souvent financière, des lobbyistes, et c'est dramatique. Moi j'ai assisté au vote en séance plénière au Parlement à Strasbourg. Il y a comme un tableau d'aéroport, toutes les lois qui s'affichent. Alors, je ne sais pas si les députés ont le temps de tout lire, avec tous les numéros des lois. Puis il y a le président de séance qui dit, bon, telle loi. Alors tous les pays sont alignés comme des parts de camembert tout autour. Il y a des milliers de participants. Alors la France a un morceau de camembert. Dedans, il y a chaque parti, extrême droite, extrême gauche, centre et tout ça, qui a ses
c'est
députés alignés. Et il y a le représentant de la France qui lève le doigt, qui fait une remarque éventuellement au nom de la France. Et après, ils disent, bon, le vote dure même pas 2 minutes, parce qu'il y a 100 lois à voter en chaîne. Bon, qui est pour, qui est contre, et puis c'est un seul qui lève la voix pour tout son parti, qui lève la main, qui dit, bon, on est pour, on est contre. Donc il n'y a même pas de liberté de vote individuelle. Et c'est ça que dans la démocratie qui me choque, c'est que moi, si on pouvait réformer un peu la Constitution, il faudrait qu'au Parlement, les députés, les sénateurs qui représentent le peuple votent en leur âme et conscience à titre personnel et secret. Parce que là, c'est pas possible qu'un parti, justement, qui est sous influence de lobby énorme, dise à tous les républicains, à tous les socialistes, à tous les rassemblements nationaux, vous votez comme un seul homme, tel...
Il y a des lobbies, mais encore une fois, le lobby en général, il va donner aux politiques, aux députés, des position papers qui sont établi sur des faits véritables, et après il y a peut-être un autre lobby qui va trouver des contre-arguments, mais en général
le lobby c'est purement financier,
c'est que de l'argent.
Ce qu'ils sont financés, mais ce qu'ils disent dans leur prise de position, c'est rarement n'importe quoi. Bah,
justement, on en parlait tout à l'heure, c'est que
je
quand il y a des pressions,
messieurs, c'est important. On se dirige vers la fin de l'émission, Patrick. Hein,
oui. Alors, juste.
L'émission a été d'ailleurs sponsorisée par le lobby
du laboratoire.
Alors, Nutri Radio, c'est-à-dire venez de Nutri TV. Non, mais. Je voudrais mettre
pour parler, par exemple, des grands journaux médicaux internationaux, le New England Journal of Medicine, le Lancet, je ne suis pas complotiste, c'est les rédacteurs en chef eux-mêmes de ces journaux qui l'ont publié. En disant, on n'a plus confiance dans notre journal qui est pourri, la moitié des études sont falsifiées sous la pression de lobby. Donc voilà, c'est un exemple dans les publications scientifiques, et c'est les rédacteurs en chef des journaux qui l'ont dit, c'est pas moi, parce qu'ils l'ont vécu.
Ce que j'ai l'impression que Méa veut faire. Ah, vous mettez la pression là. c'est vraiment d'apporter de la transparence pour se focaliser sur une médecine de la santé. J'y reviens à chaque fois, parce que la prévention, elle est quand même centrale aujourd'hui. Évidemment qu'il va y avoir des lobbies, des groupes pharmaceutiques pour utiliser plus de médicaments.
Hein? Et d'autres lobbies, moi j'insiste.
Mais je vous dis, le lobby de la sérola, il n'est pas fort.
Eh oui, mais bon.
voilà, hein, c'est pas un truc qui va vous payer des milliards pour effectivement voter telle ou telle loi.
Hein? D'accord. Ne me regardez pas, il me regarde de travers maintenant, ça y est.
Mais non.
Je l'ai énervé. Bon, mesdames, messieurs, de toute façon, vous êtes sur Nutri TV.
Si on veut continuer à exceller, à réparer, puis à soigner les gens, bah c'est vrai qu'on arrive à la limite de ce modèle curatif. Aujourd'hui, il est important d'avoir beaucoup plus de transparence, d'avoir beaucoup plus de données scientifiques crédibles, hein, qui ne sont pas empreintes d'un quelconque parti pris. Aujourd'hui, l'esprit critique, ou même être sceptique, c'est avoir l'esprit ouvert. Donc aujourd'hui, on est face à une médecine de la maladie qui empêche en fait la complémentarité par d'autres soins.
Ce que je regrette beaucoup suite à toute cette crise, le Covid et autres, c'est qu'on n'a plus le droit d'avoir un débat public contradictoire. La science, c'est la contradiction permanente.
Ben oui.
Un jour, il y a des gars qui avaient dit « mais la Terre est plate, c'est évident ». Après, il y a un farfelu qui a dit « non, elle est ronde
». Quoi, la Terre est ronde?
C'est pour dire que on a pouvoir avoir le droit d'exprimer des idées contradictoires. Moi, j'avais demandé ça, qu'on puisse, avec des experts qui n'étaient pas de mon avis, se mettre autour d'une table.
On refera des émissions comme ça. Moi, franchement, ça serait une bonne idée. Si vous trouvez des experts qui ne sont pas de votre avis et qui veulent venir sur Nutri TV...
Mais il faut qu'ils soient d'accord, c'est tout.
Oui, être d'accord de ne pas être de votre avis et de venir ici et discuter, parce que c'est vrai qu'on a du mal parfois à discuter. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on adore. Hein. Aujourd'hui, on invite avec plaisir Christian Perronnet. Vous revenez quand vous voulez, et on invite tous ceux aussi qui ont des choses à dire pour faire avancer et construire des ponts pour qu'on vive mieux, plus longtemps, être dans la prévention. Et puis voilà, vive les lobbies, vive la France.
Merci, et vive Nutri Radio. Et vive Super Pouvoir.
Merci beaucoup, Patrick Martini. À très vite sur Nutri Radio et sur Nutri TV.
Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.